Alors, on a avec nous Stéphane Boucher, notre journaliste à Cogeco, parce que le meurtrier Hugo Fredette a évidemment écopé de la perpétuité, mais ouais. Le débat ces temps-ci, surtout depuis les assassinats à la mosquée de Québec, on parle de perpétuité 25 ans, puis perpétuité 50 ans.
Oui. Mais là, il a été condamné donc à une peine de prison sans possibilité de libération de 25 ans. Il fallait qu'on se fie sur la sentence qui avait été prononcée contre le meurtrier de la mosquée de Québec. Dans un premier temps, c'était 40 ans et en appel, on a réduit ça à 25 ans. Donc, Fredette avait été déclaré coupable des meurtres prémédités de son ex-conjointe Véronique Bard et d'un automobiliste dont il a volé la voiture. Yvon Lacasse, ça se passe en 2017. Donc, Fredette avait tué son ex-conjointe dans une résidence de Saint-Eustache avant de partir en cavale avec un enfant au Québec et en Ontario. Et durant sa fuite, il a aussi tué donc Yvon Lacasse dans une halte routière de la Chute avant de lui voler son véhicule. Donc, la juge au dossier devait tenir compte de la sentence qui a été prononcée dans l'histoire de l'attentat de Québec. Une sentence de 40 ans, donc, avait été prononcée dans un premier temps et sentence réduite à 25 ans en appel. Alors, Hugo Fredette, 25 ans sans possibilité de libération.
Oui, je comprends. Nous autres, on aimerait bien 50 ans parce qu'on n'en peut plus de la violence faite aux femmes. On est fâché quand on veut juger. Mais un juge ne peut juger que sur la jurisprudence.
La jurisprudence.
Il y a une jurisprudence qui a été soulevée depuis l'attentat de Québec, mais elle a été ramenée à 25. Ça répondait à la question avant même que le jugement tombe.
Tout à fait.
On pouvait comprendre. Ouais. Merci beaucoup, Stéphane.
En prie, Dan.
Je te souhaite une belle journée.
Moi aussi.
Et un bon couvre-feu. Fais pas le fou, ça.
Sans faute.
OK, merci. Et là, tout de suite, écoutez, je vais vous faire jouer deux extraits. On a entendu Trump une première fois. Je vous fais jouer.
We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved.
OK, ça, c'était quand il parlait à sa foule avant que tout le monde se déchaîne sur le Capitole, juste avant. Il est crinquait. Et là, je vous fais écouter un deuxième extrait.
My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power.
Il a changé de ton. C'est clair. Alors, trompez-vous pas, il va continuer à dire qu'on lui a volé l'élection, et là, d'autant plus, en redevenant simple citoyen, il va pouvoir plus le dire sans conséquence, parce que qu'un président, et que, d'ailleurs, plusieurs républicains avec lui disent on s'est fait voler l'élection, alors que c'est par ce même fonctionnement-là qu'ils ont leur propre job, eux. J'ai toujours trouvé ça assez épouvantable parce que ça attire les excités, ça les alimente. Et là, je crois que pour la première fois, Trump a eu peur pour ses fesses. Et là, il s'est calmé un petit peu. C'est sûrement très provisoire, mais il s'est calmé un petit peu. J'aimerais ça analyser ça comme il faut avec notre chercheur Raphaël Jacob, qui est chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand. Salut Raphaël.
Salut Dan.
Comment tu vas?
Dans le contexte, assez bien. Toi? Ah,
faut toujours dire, on dit toujours bien, mais on sait qu'on veut dire dans le contexte.
Ouais.
C'est évident.
T'as
c'est
tout compris.
C'est sous-entendu. Dis-moi, parce qu'il y a plusieurs menaces, il peut se faire destituer, il peut avoir l'article 25, il a peut-être peur de poursuites criminelles, je sais pas. Il a peur de quoi? Es-tu d'accord avec moi qu'il a comme reculé, là? C'est la première fois qu'il dit qu'il va avoir une transition pacifique. Il l'a garanti, là.
Oui, bien, il l'a garanti. Pour ce que ça vaut, là, quand c'est une promesse venant de la bouche de cet individu-là, une fois que c'est dit, il ne faut pas se leurrer, là. C'est pas une espèce d'examen de conscience, là, auquel on a assisté. C'est clair. C'est pour sauver une personne. C'est pas pour sauver la démocratie. C'est pas pour que le pays guérisse, là, comme il l'a dit dans cette espèce de vidéo ridicule-là publiée hier soir. C'est d'abord et avant tout pour se protéger lui-même. De
bien
quoi?
Sûr.
Deux choses. Dans le court terme, sa destitution. Et je le sais qu'il y en a qui nous écoutent qui vont se dire « Ouais, mais il s'en va dans 12 jours de toute façon. » C'est vrai. Sauf que le ton a vraiment changé à Washington depuis l'espèce de journée historique. Là. C'est bête comme terme, là, mais c'est pareil. C'était historique pour toutes les mauvaises raisons. Là. Depuis ça, à la fois au sein du cabinet, écoute bien ceci, Dan, on a appris ce matin que à la fois son secrétaire d'État, ça c'est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, là. C'est pas un deux de pique là, au sein du cabinet, son secrétaire d'État et son secrétaire au Trésor, ça c'était deux de ses plus loyaux secrétaires, auraient tous les deux discuté ouvertement, là, à l'interne évidemment, de la possibilité d'invoquer le 25e amendement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire transférer les pouvoirs présidentiels à Mike Pence. Donc, il y a cette menace-là. Et si ça, c'est pas mis à exécution, il y a la menace que laissent, disons, planer les leaders, à la fois démocrates, mais il y a aussi des républicains au Congrès qui disent que si on n'y va pas avec le 25e amendement, que le cabinet de Donald Trump s'en occupe pas, on va relancer un processus de destitution. Je dis relancer parce que faut-il le rappeler? Ça oui. fait à peine un an qu'on l'a impeaché, ce bonhomme-là. Là. C'est oui. quand même assez hallucinant. Là.
Donc, en fait, les représentants l'ont impeaché. Les sénateurs, eux autres, ils ont pas
l'ont suivi. L'ont acquitté, c'est ça, exact. Mais quand même, on a quand même lancé un quatrième processus de destitution contre un président américain dans toute l'histoire des États-Unis. C'était majeur et encore une fois, ça fait à peine un an. Et
oui, là, on serait prêt à le refaire. Mais étant donné qu'il a été acquitté, il y avait certaines conséquences, mais il n'y en avait pas d'autres. Là, maintenant, s'il était impeaché en bon français...
Et destitué.
S'il était destitué, oui. Il ne pourrait pas se représenter là, dans
c'est
quatre
ça.
Ans.
Tu as tout compris. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de crier sur tous les toits là, depuis deux jours. La raison pour laquelle la destitution, elle est majeure, même s'il reste juste 14 ou 12 ou 10 jours, c'est pour la suite des choses. C'est pas tant pour 2021, c'est pour 2024, voire 2028. C'est que la Constitution américaine, elle est très claire là-dessus. Une fois qu'un président est destitué, il ne peut plus jamais revenir. C'est aussi simple que ça. Il est barré à vie. Donc, il y a ça qui est très, très lourd de conséquences. Ça, c'est dans le court terme. Dans le plus long terme, au-delà du 20 janvier 2021, là, Donald Trump va perdre ce qu'on appelle son immunité présidentielle, ce qui fait en sorte que depuis quatre ans, pour toutes les singeries qu'on voit, les allégations de comportement, des fois peut-être même de nature criminelle, il a toujours pu esquiver vraiment là, le potentiel de poursuite. Ça change à partir du 20 janvier, parce qu'une fois que tu n'es plus président, que tu redeviens simple citoyen, ben, tu peux faire face à la justice. Et là, il faut
le rappeler. Il le disait lui-même, il dit « je pourrais tirer quelqu'un au milieu de la 5e avenue, puis je ne perdrais pas un seul électeur. »
Ouais, ben là,
sauf que là, il va y avoir d'autres conséquences.
Ben, tu as tout compris. C'est que là, ce n'est plus juste des conséquences politiques ou électorales, ça peut être des conséquences légales. Et ce qui a changé dans la dernière semaine, c'est que là, on n'est plus simplement dans le scandale ou dans la controverse, on est dans la criminalité. Tout au moins, j'allais de façon prudente, dans le potentiel de criminalité. Pourquoi? Ben parce que tu as vu comme moi ce qui a éclaté pendant la fin de semaine, cette espèce d'appel complètement scandaleux et surréel du président au secrétaire d'État de la Géorgie, le responsable des élections en Géorgie,
oui.
Qui, carrément...
J'ai besoin de 11 270 votes.
780 votes, exactement.
Trouvez-moi ça.
Et doit-on le rappeler, il le menaçait là, dans l'appel. Là. C'était à peine à mot couvert. Là. C'était « toi et ton avocat, vous risquez beaucoup présentement, vous êtes en train de courir un grave risque en ne m'obéissant pas, etc. » Donc,
certain qu'il y a des avocats qui sont déjà en train de rédiger les...
C'est clair. Et ça, c'était au début de la semaine. Donc, tu avais déjà toute la question de peut-être être accusé d'avoir essayé de pousser un élu américain à commettre de la fraude électorale, ce qui est un crime fédéral. Et là, ce qui s'est ajouté mercredi, il ne faut pas avoir peur des mots. Là. On est en territoire de sédition. Là. Parce que ce que Donald Trump a fait mercredi, avec ses propos, là, cette espèce de foule de manifestants complètement déchaînés, en leur disant de le suivre et de marcher au Capitole, c'était pas simplement manifester. Là. Il faut faire la part des choses. C'était pas simplement une manifestation. La Constitution américaine garantit évidemment le pouvoir de manifester. Ce que lui a fait, c'était une tentative d'intimidation des membres du Congrès. L'idée, c'était de se rendre au Capitole, faire, pas nécessairement du grabuge là, matériel, mais faire assez de chahut pour intimider suffisamment de sénateurs et de représentants pour qu'ils ne certifient pas les résultats d'élection. C'était une tentative de freiner la démocratie américaine, de renverser les résultats d'une élection parfaitement légitime et démocratique et se maintenir au pouvoir, même
parce
s'il
qu'il a le droit
de
contester, mais il a contesté presque 60 fois en cours, puis
il a perdu. C'est là la nuance. Dans son vidéo là, dont tu as fait jouer un extrait tantôt, là, en ouverture de segment, dans laquelle il essaie de jouer au rassembleur, là,
oui.
Il dit qu'il a essayé toutes les avenues légales. Mais c'est ça le problème. Il avait essayé toutes les avenues légales. C'était terminé la contestation judiciaire. Ce qu'il a fait mercredi, c'était, et là aussi, il ne faut pas avoir peur des mots, c'était une tentative de coup d'État. C'est aussi simple que ça.
Intimider les élus, c'est une tentative de coup d'État. Le faire massivement à tous. Les deux chambres étaient là en même temps.
Exactement.
Alors, Moi, je remarque un autre changement au-delà de tout ça, c'est que là, il perd beaucoup d'alliés. Et surtout depuis l'affaire du Capitole, là, il en perd vraiment beaucoup. Et quelque part, je dis, je suis content, pas parce que je suis pour ou contre Trump, ben, on se doute que plutôt contre que pour, là, mais parce que je trouve que ses alliés ont souvent été les premières victimes de Trump. Parce que ses alliés, pour lui, il les utilise tant que ça les sert, puis après ça, il les jette au loup, il les pitche en tour du boss, il les insulte, il les traite de tous les noms, ces gens-là reçoivent des menaces. Et là, il a refait la même chose avec les gens qu'il a envoyés au Capitole, dont Fred Flintstone et toute la gang qui était là. Il a tout de suite, là, il a vu qu'il était obligé de backer parce qu'il a eu peur, il a eu chaud pour ses fesses. Il a été obligé de dire « Je condamne, vous êtes des gens épouvantables », alors qu'hier, il leur disait qu'ils étaient la 8e merveille du monde.
Qu'il les aimait, Dan.
Qu'il les aimait, et là, il les insulte.
Exact.
Tu vois la valeur. Moi, je pense que chez n'importe qui frise, je ne suis pas psychiatre, je ne veux pas partir là-dessus, mais qui frise la psychopathie à ce moment-là, de si près, je crois qu'ils se foutent complètement, tellement des autres, que là où ils font le plus de dégâts, ben, c'est avec les gens qui leur sont les plus proches. Les alliés payent très, très, très cher. On vient de le voir, là.
C'est tellement intéressant, ça, comme point, parce que regarde depuis, et ça te montre que cette histoire-là, là, date pas de 48 heures, là, ça a pas commencé avec le Capitole. Regarde depuis 4 ans. Toutes les personnes qui sont passées au tordeur, dont le pire crime, en fait, avait été d'être loyal, peut-être aveuglément loyal à Donald Trump, à commencer par son propre avocat, son propre bras droit, Michael Cohen, qui avait été, écoute, son chien de garde, qui avait été tout pour lui pendant plus de 10 ans, et qui, là, aujourd'hui, se retrouve où? En prison fédérale. Mmh. Et pourquoi? Parce que Donald Trump, l'envoyé au loup, s'est complètement reviré contre lui. Bon, tu l'as vu aussi plus tôt cette semaine avec nul autre que son vice-président. Mike Pence, y avait-tu un politicien plus important à Washington, plus intensément loyal à Donald Trump depuis 4 ans? Mike Pence n'a pas eu le choix, à la 11e heure, de prendre son camp. C'était soit qu'il était du côté de Donald Trump ou il était du côté de la démocratie américaine. Mike Pence s'est rangé ultimement du côté de la démocratie américaine et regarde comment Trump l'a payé en l'insultant, en l'intimidant. Quand le vice-président Pence et évidemment tous les membres du Congrès avaient à se cacher pour leur vie, carrément, là, parce qu'il se trouvait au Capitole alors que le Capitole était encerclé et qu'on a commencé à avoir des gens qui entraient par infraction, il n'y a pas eu un seul appel qui a été logé par le président ou son entourage pour ne serait-ce que prendre des nouvelles du vice-président, savoir s'il était correct. Et là, évidemment...
Mais ça va plus loin que ça. D'après moi, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. C'est pas normal qu'il y ait quelques membres de sécurité avec des matraques, là.
Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et surtout quand...
Rappelle-toi quand Black Lives Matter, écoute, il y avait 2000 Robocop prêts à tuer tout le monde, là.
Surtout que là, ce qui se serait passé, c'est qu'il y aurait eu des demandes qui auraient été faites explicitement là, en temps réel au département de la Défense pour qu'on envoie des renforts et ça aurait été refusé. Fait que tu sais, il y a vraiment des grosses questions qui se posent et l'exemple ultime donc de cette... écoute, moi non plus, je ne vais pas jouer au psychiatre, là, mais disons de cette de la nature de l'individu qu'on a présentement là, à la tête de la présidence des États-Unis, ben c'est comme tu l'as dit, comment il se comporte vis-à-vis ses... Je ne veux pas les appeler des manifestants, là, ces émeutiers-là. C'est-à-dire, sans
s'élever... Il a lui-même lancé sur le Capitole.
Exactement.
Et puis que le lendemain, il les jette au loup. Parce que là je vois passer des images. Il y en a un qui est parti avec le pupitre de Nancy Pelosi quand elle prononce ses discours. Puis il fait un tata à la caméra. Regarde bien la face avec les menottes. Il va être moins joyeux pas mal. Et je te garantis que ce mugshot-là s'en vient très bientôt. Trump vient de tweeter juste là qu'il n'ira pas
à la
sermentation de Joe Biden. Tu vois, fait que ça finira pas. Donc, vraiment, il y a juste la force qui en vient au bout.
Exact.
Mais en fait, c'est sa propre force. C'est lui qui, à force de repousser les limites de la loi de plus en plus loin, vient de se faire tomber lui-même. Je suis obligé d'aller à la pause, mon Raph, mais je te garde. On revient tout de suite après la pause. Je vous rappelle que je suis avec Raphaël Jacob, qui est chercheur associé à la chaire Raoul Landurant. Raphaël, je l'ai dit avant la pause, là, Trump vient de tweeter qu'il n'ira pas à l'inauguration. C'est le moment important de tout ce qui vient de se passer. C'est l'inauguration du nouveau président américain, Joe Biden, du président élect. Parce que quand on parle de Trump, c'est le président déselect. hein, on va le dire. Et donc, c'est vraiment la journée la plus importante, là.
Les mots manquent. On va se laisser sur ceci, je pense, aujourd'hui, Dan, là, mais il faut, je pense, en faire un cas majeur, là, parce que le viol que ça représente, là, des valeurs américaines, des valeurs démocratiques, ça peut pas être sous-estimé. Je vais te laisser, en fait, avec une, si tu veux bien, là, avec une petite histoire. La toute première transition présidentielle de l'histoire des États-Unis, c'était celle entre George Washington et John Adams. Et George Washington avait la possibilité de se représenter, lui, pour un troisième mandat. La Constitution américaine n'avait pas été amendée à ce moment-là là, pour limiter les présidents à deux mandats. Il aurait pu rester en poste. Il a choisi, justement, pour faire des États-Unis une république, de partir volontairement. Et le jour de la sermentation de John Adams, George Washington était présent pour y assister. Et lorsqu'il a quitté, lorsqu'il est venu pour quitter, on lui a recommandé de sortir en premier, parce que c'était le premier président des États-Unis, c'était lui qui venait de céder ses fonctions, et il a refusé. Et il s'est fait une mission de passer de façon anonyme au milieu de la foule. Pourquoi? Parce qu'il voulait envoyer un message très clair, comme quoi il était, avait toujours et allait terminer sa vie comme simple citoyen, que ce qu'il avait fait, c'était de servir son pays. Regarde l'idéal qui est à la base des États-Unis d'Amérique et regarde aujourd'hui le viol le plus abject qui est commis par le président qu'on a présentement.
Le fait que Trump ait peur et qu'il ait reculé d'un centimètre, là, crois-tu que ça met un petit peu cette cérémonie d'inauguration à l'abri du luberlu qui pourrait recommencer la même chose qu'au Capitole pendant la cérémonie d'inauguration?
C'est secondaire presque à ce stade-ci. Le simple fait est que pour la première fois de nos vies, le président sortant ne sera pas là en personne pour féliciter et pour participer activement au transfert pacifique des pouvoirs.
C'est énorme, comme inacceptable.
Symbole. Ouais. C'est inacceptable. Et je t'ajoute ceci rapidement. Peu importe ce qui peut être évité comme, en guillemets, comme grabuge par l'absence de Donald Trump lors de la cérémonie d'investiture, on n'est pas à l'abri qu'il fasse des sparages ailleurs pendant ce temps-là. Le simple fait que ça demeure une possibilité à moins de 2 semaines de l'événement, les mots, là aussi, encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais les mots nous manquent à tel point, c'est d'une honte et c'est en telle opposition avec tout ce que les États-Unis sont censés être depuis leur fondement. Le seul espoir qu'on peut avoir, je pense, en ce début d'année-là, c'est que plus jamais on revoit un type aussi profondément ignoble s'approcher de la présidence de ce pays.
Malheureusement, ces pratiques vont être analysées pour savoir ne plus quoi faire, mais pour savoir aussi comment on peut l'exploiter.
Absolument.
C'est ça, la politique.
Absolument.
C'est comme une jurisprudence, ça marche comme ça. Merci beaucoup, Raphaël.
Merci, Dan.
Prends soin de toi, puis oublie pas, t'as pas le droit de sortir le soir.
j'ai une petite fille de 6 ans, fait que déjà en partant, le problème était réglé.
Ah, t'es surveillé, là. T'es à moi de checker, là. Okay. Merci, Raph. Salut. C'était Raphaël Jacob, qui est chercheur associé à la chaire à Haut-Lendurant. Et j'ai pour moi, pour la dernière fois, mais là, on est comme des enfants qui veulent pas sortir d'une piscine.
Allô, Dan.
C'est la dernière fois, Nathalie Normando,
oui,
devant moi.
Oui, c'est vrai, c'est la dernière fois. Moi, je suis très fébrile. Je sais pas, toi, dans quel état d'esprit tu es actuellement.
Ben, moi, c'est-à-dire que quand ça commence, je me dis, maudit, ça va être long. La dernière journée, je dis, j'en referai une semaine de plus.
T'as raison,
je suis tout le temps comme ça pour tous mes jobs.
Ah, c'est vrai? T'as raison de nous comparer à des enfants. Oui, notre dernière, Dan, mais moi, je serais très heureuse d'avoir fait ce que j'ai fait. Même chose pour toi. Écoute, je pense qu'on peut dire qu'on
t'as
a relevé
contente?
Le défi. Ah oui, très, très, très.
Parce que le travail, ça fait du bien de reprendre. T'es une communicatrice, c'est ton métier.
Exact.
T'as sorti un peu t'as vécu des affaires dures. Puis, bon, moi aussi une coupe, mais
remarque,
ça nous a déconfinis, ça nous a fait du bien. On
exactement.
Pris,
de
collier.
De se faire une routine, en fait. Tu comprends?
Oui.
De venir travailler, c'est une routine. Avant que tu me demandes ce dont on va discuter à l'émission, ben, on va être attentif au point de presse que toi, tu vas diffuser dans quelques minutes, le point de presse de Jean-François Roberge. On a une émission aujourd'hui très diversifiée. On va parler de grippe, de prix d'essence, des prix de l'essence qui pourraient augmenter liés à un pipeline aux États-Unis. On va parler d'épicerie, de frais de livraison dans les restaurants, d'Elon Musk qui est devenu le premier, l'homme le plus riche du monde.
184 milliards de dollars.
Tu sais, il a fait, au cours de la pandémie, là, il s'est enrichi de plus de 100 milliards en affaires de fou, là, complètement fou. Alors, on va essayer de comprendre ce phénomène. Oui, entre autres. Mais écoute, le gars, il finance SpaceX. C'est lui dans l'espace. Là. C'est assez incroyable. Hein?
complètement fou. Répartition de la richesse.
Comme on dit, il y a
encore un job à faire là-dessus.
Il y a encore, il y a peur de la fin du monde, puis pas de la fin du mois, lui, c'est ce qu'on dit.
Oui, dans son cas. Merci beaucoup, Nathalie. Bonne dernière émission. Là, ça va être les nouvelles. Et puis, après ça, je vais vous revenir, moi, pour le dernier bloc. Puis après ça, je vais vous dire bye-bye jusqu'à l'été. Bye.